Nous lisons dans Luc 19, au chapitre 23. Non, Luc 19, au verset 28. Luc 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends les disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. S'ils se taisent, les pierres crieront. Curieusement, il y a eu ces intempéries. Et le thème de ce matin, c'était, c'est encore que rien ne t'empêche de louer le Seigneur. Que rien ne t'empêche de glorifier Dieu. Donc, c'est pas un thème qui a été pris à cause des intempéries, mais c'était prévu ainsi. Et nous continuons ainsi. Que rien ne t'empêche de glorifier le Seigneur. Bien-aimés, nous voyons dans ce contexte les disciples glorifier Dieu. Et un anneau qui ne leur appartenait pas a été réquisitionné pour servir, apporter le Seigneur des Seigneurs. Et les disciples commencent à chanter. Ils ont mis leurs vêtements sur l'anneau pour que Jésus monte dessus. Le peuple a mis aussi les vêtements au sol. Même pas pour que Jésus marche dessus, mais l'anneau, parce que Jésus était sur l'anneau. Donc c'est l'anneau qui a foulé les vêtements aux pieds. Quel niveau de respect, quel niveau, quelle vision ces gens-là ont mis les vêtements au sol. Et c'est l'anneau, un âne qui a marché sur ses vêtements. Mais puisque cet âne portait le Seigneur des Seigneurs. Et les pharisiens, dépassés par une telle effervescence, ils disent, mais Jésus, arrête-les, ils exagèrent. Jésus dit non. C'est parce qu'ils ont compris. D'ailleurs, s'ils se taisaient, les pierres vont faire cela. Les pierres vont crier. Les pierres vont glorifier mon nom. Il est écrit dans Ésaïe que le Seigneur nous a créés pour célébrer la gloire de son nom. Pas dans le sens de, comme si nous ressemblions plutôt à des guitares ou bien à des tam-tams, mais il n'y a pas que le côté musical produire du son. Il y a le côté vivre pour Dieu, être son image. C'est ça aussi, célébrer sa gloire. Et le Seigneur veut qu'on s'en souvienne et que nous bâtissions notre vie autour du fait de glorifier Dieu, que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous prenons conscience de cela? Aujourd'hui, nous bâtissons notre vie autour de notre perfectionnement. C'est ce que les religions chrétiennes, enfin, le mouvement évangélique actuel est en train de prêcher à gauche, à droite. C'est du coaching. C'est-à-dire, on te donne tous les enseignements possibles pour que toi, tu sois parfait. Comment tu vas être un bon adorateur? Comment tu vas être un bon chrétien? Comment être... C'est toi qui es le centre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ce soit lui qui soit le centre. Que tu t'intéresses à le glorifier. Que tu t'intéresses pas à toi à devenir le meilleur chrétien, le plus grand adorateur, mais que lui soit glorifié dans ta vie à tout moment. C'est ce que lui il veut qu'on fasse. Et d'ailleurs, malgré tous ces enseignements sur notre perfectionnement, sur notre sainteté, sur notre, nos qualités que nous devons mettre en valeur, on dit, ils utilisent souvent le terme potentiel. Tu as un potentiel que tu dois mettre en valeur. Malgré tous ces enseignements, nous voyons qu'il y a des divorces dans ces milieux-là, il y a des trahisons dans ces milieux-là, il y a des l'apostasie, l'amour pour l'argent. Dernièrement, le responsable de la sécurité d'une prétendue servante de Dieu a tué même sa femme. Malgré tous leurs enseignements du perfectionnement humain, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Parce que le centre, ce n'est pas l'homme, le centre, c'est Dieu. Il faut s'intéresser à glorifier Dieu. Vous croyez que les gens qui ont mis les vêtements au sol, vous croyez qu'ils étaient parfaits? Ils n'étaient pas parfaits. Puisque la Bible est claire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible est claire qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus. Nous sommes sauvés par grâce et non pas à cause de notre perfection. Mais ces gens-là, n'étant pas parfaits, ils avaient compris que leur vie devait servir à la gloire de Dieu. Donc ils ont osé mettre leurs vêtements pour que l'anneau de Jésus marche sur ces vêtements. Et ils ont crié « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils ont été saisis par l'Esprit. Et les pharisiens ont voulu dire « Mais Jésus, arrête-les ». Jésus dit « Non, ils ont compris ». Parce que de toute façon, s'ils ne le font pas, les pierres vont le faire parce que dans l'humanité, il y a l'Esprit de Dieu qui est répandu pour glorifier Dieu. Vous savez, dans Jean 16, c'est écrit que le Saint-Esprit viendra glorifier le Seigneur. Il viendra glorifier le Seigneur. Donc le Saint-Esprit pouvait se saisir des pierres pour glorifier le Seigneur. Alors la grande question, c'est que si... le Saint-Esprit peut se saisir des pierres pour glorifier Dieu. Moi, me mettrai-je derrière les pierres? Me laisserai-je devancer par les pierres? Quand moi, je ne glorifie pas Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un problème? La prédication de ce jour, c'est nous pousser à chercher qu'est-ce qui nous empêche de glorifier Dieu. Est-ce que tu ne te concentres pas sur toi-même? Tu es trop focalisé sur toi-même. À tel point que, ne te sentant pas parfait, tu n'as pas non plus le goût de glorifier Dieu. Réfléchis. Est-ce que tu ne te laisses pas impressionner par la sécheresse en France? L'anti-Dieu, le mouvement anti-Dieu en France? Parce que la sécheresse peut nous impressionner. Le fait que les gens soient tellement contre Dieu, ça peut nous impressionner. Le fait que les gens ne veulent pas sentir Dieu, ça peut nous impressionner. Ça peut nous affaiblir. Est-ce que ce n'est pas ça qui t'affaiblit? Est-ce que c'est le manque d'argent qui t'affaiblit? Est-ce que c'est le problème de santé qui t'affaiblit? Mais bien aimé, comprends une chose. Si tu ne glorifies pas Dieu, tu te mets en dessous des pierres. Parce que Dieu peut susciter des pierres pour glorifier son nom. Alors si toi, l'homme créé à son image, tu es incapable de le glorifier, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est écrit ceci à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Paul emprisonné à cause de l'évangile, à cause du service de Dieu. Il pouvait se plaindre, dire « Mais on sert Dieu, voilà ce que nous récoltons. » On prêche l'évangile, voilà ce que nous récoltons. C'est la souffrance, c'est la prison. Non, Paul avait conscience. Un jour, on a prêché sur le thème suivant, avoir conscience de Dieu. Paul avait conscience de Dieu. Il avait la conscience de Dieu. Il savait que Dieu existait. C'était une réalité. Malgré le fait qu'on avait mis les ceps aux pieds, c'est des morceaux, des bouts de bois lourds qu'on te met aux pieds. Donc aujourd'hui, on a des menottes, mais là, il y avait non seulement des choses pour lier les bras, mais les pieds aussi, les ceps aux pieds. Et on l'a mis à la prison intérieure, la partie la plus difficile. Mais ce n'est pas comme nos prisons ici qui ont des toilettes, qui ont plein de choses qui peuvent rendre la vie plus ou moins tenable. Mais il nous a écrit pendant la nuit, ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, à louer Dieu. Parce que Paul, comme les amis de Daniel, comme les vrais de Dieu, David, ils ont conscience que Dieu existe et qu'il est tout puissant, il est bon, il est juste. Ce n'est pas leurs conditions qui vont fixer le niveau d'adoration de Dieu. C'est Dieu est éternel. Vous savez, il y a une qualité que Dieu a, c'est d'être éternel. Et éternel peut avoir deux sens. Ça peut avoir le sens de qui ne finit jamais, mais ça peut avoir aussi, ça a plus le sens original, c'est qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Aujourd'hui, nous aussi, en quelque sorte, nous sommes éternels, mais il y a deux formes d'éternité. Il y a l'éternité auprès de Dieu dans la puissance et dans la gloire, et il y a l'éternité dans la souffrance, une éternité dans la galère. Mais Dieu, lui, il est éternel dans le deux sens. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Les démons ont eu un commencement. Les anges ont eu un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Et il n'a pas de fin. Il est éternel. Comment je vais faire dépendre son adoration, l'adoration à sa faveur, la gloire, la glorification de son nom, je vais faire dépendre ça de moi qui ne suis pas physiquement éternel. Non. Paul a commencé à louer Dieu. Dieu, tu es grand. Tu es tout puissant. Tu contrôles tout. Les Jules César sont passés. Les grands pharaons sont passés, enterrés. Mais Dieu, toi, tu y es toujours. Les empereurs romains passent. Ils ont commencé à glorifier Dieu en chantant. Et il y a eu un tremblement de terre par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, même si ça ne se passe pas toujours pendant que nous on chante, ce tremblement de terre, ça se passe dans le monde spirituel. Parce que Dieu est le même. Il est écrit hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Ça se passe toujours, mais on ne voit pas toujours. Dieu est grand. Il doit être loué. Et nous donnons quelques raisons. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes de tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Première raison, car il a commandé et tout ça a été créé. Nous sommes sa production. C'est logique de le louer, parce que si nous sommes, c'est lui qui l'a voulu. Il nous a créés. Il est écrit que les cieux, que les eaux, que les montagnes adorent, plutôt louent, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Les monstres marins, c'est Dieu qui a créé tous les animaux. Et que tout cela loue le Seigneur. Même les montagnes, même les collines, louez le Seigneur. Et le font, les collines et les montagnes. Quand on regarde les montagnes, les collines, quelle beauté, quelle majesté. Les gens vont faire les sports d'hiver. Les gens, y a un monsieur qui a 62 ans, a été opéré d'un rein. Et on lui a enlevé un rein. Mais il a voulu quand même faire l'escalade de l'Everest. 8848 mètres. Parce qu'il aime la montagne. Mais qui a créé la montagne? C'est Dieu. Donc la montagne glorifie Dieu parce que ça attire des gens, ça attire le regard des gens. Et quand les gens regardent la montagne, ils disent, mais celui qui a créé, il est magnifique. Ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont simples, ils arrivent à reconnaître cela. Alors si les objets inanimés peuvent louer Dieu, comme la colline, la montagne, comme les diamants, comme l'or, des objets inanimés, ils glorifient Dieu parce que ils attirent le regard et donc forcément, ils glorifient ainsi leur Créateur. À combien plus forte raison nous qui avons été créés pour consciemment le louer, le glorifier. C'est l'orgueil, la volonté de rivaliser avec Dieu qui a fait qu'Adam a sombré dans le péché Il a voulu prendre la gloire de Dieu. Nous ne devons pas faire pareil. Bien-aimés, ne soyons pas comme Adam, soyons comme Jésus, qui s'est livré pour son Père. Il a dit, Père, que ta volonté s'accomplisse. Je veux que ma vie serve à toi. C'est ça, louer Dieu. Bien-aimés, il y a des moments où je souffre. Nous tous, nous souffrons. Mais il y a une phrase qui vient dans ma tête. Ma vie doit servir à glorifier Dieu. Ma vie doit servir à louer Dieu. Sans Dieu, où serais-je? Quoi qu'il m'arrive, ma vie doit glorifier Dieu. Parce que je lui dois tout. Je dis toujours, je parle à moi-même, je dis, cette vie doit servir à glorifier Dieu. C'est la justice même. Vous savez, il faut être juste dans la vie. Et la justice nous recommande de glorifier Dieu. Si on est vraiment juste, on va glorifier Dieu. Combien de personnes ne font-ils pas de retour d'ascenseur? Parce que quelqu'un l'a aidé une fois, quelqu'un l'a soutenu une autre fois. Après un moment, toi, si tu fais un retour d'ascenseur, tu l'aides, tu fais par reconnaissance. Mais le problème, c'est que nous, c'est chaque jour que Dieu fait. Il nous donne la respiration. Nous lisons le 150, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Louez-le de toute manière, puisqu'il vous donne la respiration. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. C'est ça la deuxième raison. Non seulement qu'il nous a créés, non seulement qu'il nous donne la respiration, donc la reconnaissance nous impose de le glorifier, mais c'est parce qu'il est grand aussi. Bien-aimé, quelque chose de grand, c'est grand. On reconnaît, on le dit. Quand on voit une belle voiture, on le dit. Quand on voit un beau paysage, on le dit. Même un beau chien, on le dit. Moi, quand je regarde les chiens, je dis, mais Dieu est grand, quoi. Ils ont quelque chose de spécial. Moi, je dis parfois au Seigneur, j'aimerais être un chien pour toi, quoi. Parce que le chien, il est en paix quand il est à côté du maître. C'est comme s'il y a une... Il est satisfait. Vous voyez, le maître est là, il s'assoit à côté, il est tranquille. C'est comme s'il est comblé. Et c'est ce qui nous manque, nous les humains. D'être en paix auprès du maître. Tu es là, tu sens que c'est bon, c'est réglé. Nous voulons avoir la nourriture, nous voulons les belles voitures, nous voulons les beaux vêtements, mais sincèrement, je crois que la présence seule de Dieu doit suffire à chacun d'entre nous. Comme un chien à côté de son maître. J'aime voir le chien à côté de son maître. Il est tranquille. Il est satisfait. Ce qui lui importe, c'est que son maître soit d'accord avec lui. C'est tout, bien-aimé. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu est grand en tout point de vue, dans sa puissance, dans sa fidélité, dans sa bonté. Ne laissons rien nous empêcher de glorifier Dieu. Rien, bien-aimé. Je commence par les besoins de la chair. Le besoin de l'homme animal, de l'homme humain. Ça peut nous amener à être distrait et à ne plus voir la grandeur de Dieu. Parce qu'on est attaché à des objectifs humains que l'on veut voir se réaliser et nous négligeons ce que Dieu fait déjà. Et souvent, pour réaliser ce que Dieu fait déjà, il faut qu'il te prive Il faut qu'on en soit privé. Quand on est privé des choses, c'est là qu'on se rend compte de ce que Dieu faisait. Mais ce n'est pas bien d'attendre d'être privé des choses pour glorifier Dieu. Il faut prier chaque jour, « Saint-Esprit, je veux que tu glorifies Dieu en moi. Je ne veux pas que cette vie soit une vie ingrate. Je veux la justice. » Il est dit de Jésus, hein, une phrase que j'aime beaucoup, « Il a aimé la justice, il a haï la méchanceté. » C'est une phrase capitale qui explique ce qu'est un chrétien, ce qu'est et l'autre. Le vrai chrétien aime la justice, bien-aimé. La justice, c'est que nous glorifions Dieu, puisque il est notre source. Nous glorifions Dieu parce qu'il est extraordinaire. Il est écrit dans le psaume 19, « Les cieux proclament la gloire de Dieu. L'étendue manifeste sa grandeur. » Donc la justice veut que Dieu soit glorifié plus que tout. C'est ça même la justice. Bien-aimé, quand je vois le monde ne pas reconnaître Dieu, je dis ça, c'est de l'injustice. C'est l'injustice et l'ingratitude. Un vrai chrétien ne peut pas supporter cette injustice. Quand il est écrit « Allez faire de toutes les nations des disciples hein, » ou bien « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création », pour moi, le point le plus important dans cette affaire, ce n'est pas d'amener les gens au ciel, c'est que les gens reconnaissent Dieu. C'est plus important. C'est ça la vraie justice. Puisqu'avant qu'on existe, Dieu existe déjà. Avant qu'on vienne à l'existence, Dieu existe déjà. Donc l'histoire d'aller au ciel, pour moi, ça vient en deuxième position. Le premier point, c'est que Dieu est là. Il est grand, il est bon, il est tout-puissant, il est le créateur de toutes choses. Nous devons reconnaître, nous incliner devant cette vérité. Nous devons nous incliner devant toutes ses qualités, son éternité, sa toute-puissance, sa bonté et sa grandeur. Si on ne s'incline pas devant cela, il y a un problème. Pourquoi la vie de tant de personnes, la vie chrétienne de tant de personnes est médiocre? Parce qu'ils ont mis la glorification de Dieu en quatrième ou cinquième position ou en deuxième position. Il faut mettre ça en première position. Paul dit dans Philippiens, j'ai considéré tout comme perte, Philippiens 3, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et il dit dans 1 Corinthiens 9, je crois au verset 23, je fais tout à cause de l'évangile. Paul vivait qu'à cause de l'évangile. Donc toutes ses pensées étaient dans l'évangile. Parce qu'il était totalement reconnaissant envers son Dieu. Paul avait décidé que sa vie c'est pour Dieu. Dans Galates 2, 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie c'est pour lui, puisque de toute façon c'est lui qui a produit cette vie. Bien aimé, c'est d'une logique tellement simple. Tellement simple. Il a produit cette vie, donc c'est à lui. Troisième raison pour laquelle nous devons vivre pour glorifier Dieu, c'est que nous sommes à lui. On l'a dit, c'est vrai, en nous mélangeant avec tout le monde qu'il nous a créé, mais ça va plus loin. Nous sommes à lui parce que non seulement il nous a créé, mais il nous a sauvés aussi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, nous allons lire 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Vous ne vous appartenez point à vous-même. La suite dit quoi? Verset 20. car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc glorifiez Dieu parce qu'il vous a racheté à grand prix. Donc vous devez être éternellement reconnaissant et vivre que pour lui. Reconnaissance parce que s'il ne vous avait pas racheté, vous seriez où? Dans la perdition totale. Bien, mais pourquoi nous péchons souvent alors que nous cherchons tant la sainteté? Pourquoi nous péchons? Parce que nous cherchons notre sainteté. Commençons maintenant à chercher à glorifier Dieu. Vous allez voir que nous serons vainqueurs du péché. Nous cherchons à être parfaits. Nous cherchons à être bons. Nous cherchons à être irréprochables. Ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de mettre ça en première position et Dieu en deuxième position. C'est ainsi qu'on a vu des gens préférer lire leur Bible au lieu d'aider quelqu'un qui souffre, sous prétexte qu'il veut connaître la parole. Mais si vraiment il voulait glorifier Dieu, il aiderait la personne qui souffre. Parce que Dieu, sa gloire, c'est qu'il est aussi bon, merveilleux et s'occupe des malheureux. Mais la personne lit sa Bible d'une manière égoïste alors qu'il y a quelqu'un qui a faim à côté qu'il peut aider. Ça, ce n'est pas glorifier Dieu. Pensons, bien-aimés, à glorifier Dieu parce que nous ne nous appartenons plus. Lorsqu'on cherche juste la sainteté qui qualifie pour l'éternité, c'est une sorte d'égoïsme et qui nous amène encore à pécher, à nous culpabiliser. Et on tourne. Mais il faut dire, Seigneur, cette vie va te glorifier. Voilà. Cette vie doit te glorifier. Ce n'est que justice. C'est la justice. Combien de fois nous crions quand nous voyons des injustices à la télé? Nous voyons des politiciens mentir tranquillement à la télé et ça nous choque. Combien de fois nous crions quand on a eu des affaires dans les tribunaux, nous avons vécu des injustices. Mais bien la grande injustice, c'est de négliger Dieu et de ne pas vivre pour lui, de ne pas le glorifier. Pensez à lui d'abord. Quand on a demandé là, non, ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Ces gens ont dit, ah, si c'est le Seigneur, de toute façon, qui a donné l'anon, c'est le Seigneur. Si le Seigneur veut récupérer l'anon, qu'il le prenne. Lorsque Job, tous ses enfants ont été tués par les catastrophes naturelles, et plutôt par des ennemis, catastrophes naturelles, tout ça a décimé la famille de Job et les biens de Job. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job a dit, pourquoi je vais maudire Dieu? Puisque ce que j'avais, c'est Dieu qui avait donné. Il a donné et il a repris. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Puisque c'est lui qui a donné, il a repris. C'est son affaire. Bien-aimé, avec le temps, vous allez bien comprendre que la nature du chien, c'est un exemple très important à suivre. Un chien va faire que son maître soit satisfait. C'est tout. Il ne va pas se compliquer la tâche. Je ne parle pas des chiens aujourd'hui à qui on met des manteaux pendant l'hiver. Non. Un vrai chien, il va faire en sorte que son maître soit satisfait. Un point, c'est tout. Il ne pense pas à autre chose. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Glorifions Dieu. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Combien de fois nous sommes bloqués? Combien de fois? Est-ce que nous sommes devenus des routiniers de la vie chrétienne? Des spécialistes d'ambition personnelle? Des spécialistes de travail personnel. Tu es pasteur. Ton désir, c'est que l'Église grandisse. Non! Le désir doit être que les gens glorifient Dieu. Il y a des moments où on se réunit dans les prières. on dit Seigneur. On dit plutôt, la personne qui dirige dit bon, que celui qui est poussé à prier, prie. Ou bien, on se tait, laissant que les gens poussés par l'esprit prient. Et il y a un silence long, je dis Seigneur. Bien aimé, il y a des moments qui sont les plus durs pour moi, ce sont ces moments-là. J'ai dit, Seigneur, c'est de l'injustice, ça. Comment il n'y a personne qui peut te dire merci, comme nous a dit le frère tout à l'heure. Comment? Et il y a un silence. Nous, comme c'est d'habitude, c'est nous qui dirigeons. Tu es obligé de reprendre. Bien aimé, j'ai dit, même si je dois prier 4 fois lors d'une réunion de prière, puisque les autres ne veulent pas, je vais le faire. Parce que ma vie, c'est pour Dieu. Voilà. Maintenant, nous ne sommes pas parfaits. Mais ce qui est sûr, ma vie, c'est pour Dieu. Voilà. Ma vie, ta vie, ça doit être pour Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment on est rassemblés entre chrétiens? Les gens ne veulent pas te dire ce que tu es. Mais il suffit que le culte finisse et qu'on parle de la dernière Mercedes qui vient de sortir ou BMW, les commentaires vont jaillir. Le dernier pont construit. Non, bien-aimé. La justice. Je ne dis pas qu'on fasse les choses par la chair. Je dis qu'on doit méditer sur cette affaire-là de glorifier Dieu. Après avoir donné les raisons, bien-aimés, je dis comment on doit le glorifier en parlant, en reconnaissant ce qu'il est, en chantant s'il le faut, en lisant aussi s'il le faut sa parole. Pendant qu'on lit, on accepte ce qui est écrit, on est en train de glorifier Dieu. Mais on doit le proclamer, bien-aimé. On doit le faire. Jésus a dit, s'ils le font, pas les pierres vont le faire. J'ai toujours réfléchi à cette phrase-là. J'ai dit, mais non. Donc Jésus considère que les pierres peuvent le glorifier. Oh. Mais ça veut dire que quand les hommes ne le font pas, ils sont moins que les pierres. Ce n'est pas pour rien qu'il ait dit que je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Bon, imaginez maintenant, ces pierres-là peuvent le faire. Donc, qui est l'homme maintenant qui ne glorifie pas Dieu? Qui est-il? Il n'y a qu'une seule possibilité. Il est fou. Parce qu'il n'y a que les fous qui peuvent être en dessous des pierres. Je ne vois pas un homme être en dessous des pierres. Il n'y a que les fous, puisque les fous peuvent considérer que, bon, il peut casser la tour Eiffel avec une lame de rasoir. Ça c'est le fou. Donc on comprend que le fou ne puisse pas glorifier Dieu. Mais puisque la pierre peut glorifier Dieu. Bien-aimé, réfléchissons. Si la pierre peut glorifier Dieu. Et quand les humains ne le font pas, ils sont considérés comme quoi? Comme des fous. Ils sont considérés comme quoi? Comme des vrais ennemis de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 1:18 ceci. Romains 1:18. La colère de Dieu se révèle du ciel. Romains 1:18. Bien-aimés, n'attendons pas la crise pour glorifier Dieu. N'attendons pas les difficultés quand les choses vont manquer pour glorifier Dieu. Soyons reconnaissants. Romains 1:18. Il est écrit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lisez le verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc ça veut dire que automatiquement quand on connaît Dieu, il y a un travail de glorification qui s'installe. C'est logique, c'est lié. Donc quand on reconnaît Dieu, automatiquement, l'Esprit nous pousse à le glorifier. C'est automatique. Quand on reconnaît que Dieu a fait tout ce qu'on a et qu'on voit, c'est fini. Même sans parler du mot Dieu, lorsqu'on voit la création, la Bible nous dit que clairement, les gens devraient glorifier Dieu. Donc l'existence de Dieu est clairement affirmée dans la création. Comme il est écrit dans un verset des Proverbes, d'Ecclésiaste. Comment imaginer que les eaux puissent se former dans le ventre d'une femme? Les eaux. Vous savez, les eaux, c'est dur. Hein? Comment imaginer ça? Vous avez déjà vu un œuf avec, qu'on utilise pour faire une omelette? Ben, le contenu que vous voyez là, si on avait laissé ça continuer, ça allait former des os et des plumes. Est-ce que, réfléchissez, le contenu que vous utilisez pour faire l'omelette là, si on avait laissé ça continuer, ça allait se transformer en plumes, en os, ça allait produire des os. C'est-à-dire, un poussin va sortir en marchant. Réfléchissez, le contenu de l'œuf de l'omelette. Mais qui a produit tout ça, bien-aimé? Je m'incline devant celui-là. Je m'incline. Et si on ne s'incline pas, c'est qu'on est devenu fou et on est devenu ennemi de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Donc, contre toute impiété, contre quoi encore? Toute impiété et toute injustice des hommes. C'est de l'injustice. Donc, ils retiennent la vérité captive. Il y a l'évidence qui est là. Non, Dieu est grand. Mais garde cette évidence-là. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. C'est des rivaux de Dieu. Ils se disent non. Nous, on ne veut pas l'ordre tel que Dieu l'a établi. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Nous, on veut un autre ordre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne voulons pas de cet ordre. On veut un autre ordre. Le seul moyen, puisqu'on sent quand même qu'il existe, c'est de considérer qu'il n'existe pas. Et il faut bâtir maintenant des théories de plus en plus mauvaises, de plus en plus dangereuses pour confirmer qu'il n'existe pas. Comme ça, tu es dans la paix quand tu pêches. Tu es dans une sorte de paix quand tu mens, quand tu fais le mal. Parce que tu t'es bâti une théorie qui puisse contredire Dieu, affronter Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on doit être de ceux-là qui disons non, Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Je veux que ma vie le serve à ce Dieu-là. Je veux que ma vie serve. Paul dans la prison, il a dit non, c'est moi qui suis dans la prison. Moi, je suis lié, mais l'évangile n'est pas lié. Il est écrit à Daniel. Je crois au chapitre 6. Quand on a interdit à Daniel de prier, on va lire Daniel 6. Daniel 6. Il y a des gens qui ont fait un complot qui a conduit à ce que le roi interdisent qu'on prie un autre Dieu que lui-même. Alors, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, hein, le décret selon lequel on ne devait adorer que Darius, pas un autre Dieu, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien-aimé. Comme il le faisait auparavant. il louait son Dieu, il priait. Malgré l'interdiction, Daniel a dit, mais qui est plus fort? C'est Dieu ou les humains? Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire, bon, comme c'est interdit, soyons sages. Fermons les fenêtres. Vous savez que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, sûrement tu dois être sur écoute. Donc, bientôt, quand il y aura des lois par rapport à l'homosexualité, on te prendra. Moi, j'ai dit, bien aimé, sur écoute ou pas, nous allons dire et prêcher la vérité. Daniel a laissé les fenêtres toujours ouvertes. Il y a des grands spécialistes de sagesse qui allaient lui dire, mais Dieu est partout, Daniel, Dieu t'entend. Ferme les fenêtres, tu pries, Dieu y voit, il entend. Daniel dit non. Les fenêtres sont tournées vers Jérusalem. Donc, dans ma prière, le symbole de la grandeur se trouve à Jérusalem. Je laisse les fenêtres ouvertes. Parce que si je ferme, ça, aujourd'hui, nous comprenons bien, aimé, que ce n'est pas une histoire de Jérusalem ou de temple. Mais, dans la façon de Daniel de prier, Jérusalem représentait un élément important. Et les fenêtres étaient ouvertes là-bas. Et Jérusalem symbolisait Dieu, symbolisait la présence même de Dieu. Daniel a dit, je laisse ça ouvert, bien aimé. Et on est venu l'arrêter. On l'a mis dans la fosse au lion. Et Dieu a fermé la gueule des lions. Mais même si Dieu ne fermait pas la gueule des lions, Dieu est tout puissant, il nous a réservé l'éternité. Et Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent rien faire contre l'âme. Ils ne peuvent rien faire contre l'âme. Et c'est l'éternité de l'âme que nous cherchons dans le ciel, bien-aimé. Comment célébrer la gloire de Dieu? Comment glorifier Dieu? En portant du fruit de paix, de justice, d'amour. Le fruit dans le témoignage en parlant de lui. Jésus dit que votre Père veut que vous portiez du fruit. Il le dit dans Jean 15. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez des fruits, c'est là que mon Père est glorifié. Quels sont ces fruits? C'est toute la nature de Dieu. Galates 5, 22, 23. La bonté, la bienveillance, l'amour, la paix, la justice, ce sont ces fruits-là. Le service à Dieu, ce sont ces fruits-là. La persévérance dans la bonté, ce sont ces fruits-là. Et quand vous persévérez dans ça, Dieu est content, il est glorifié. Parce que qu'on le veuille ou pas, les gens qui nous observent reconnaîtront que Dieu est grand, bien-aimé. Vous imaginez avec autant de neige. Le premier pas que j'ai vu autour de mon immeuble, c'était mes pas à moi. Donc ces gens-là, ils voient un monsieur sortir avec des enfants, il y en a même qui sont courts, qui marchent là, mais dans la neige profonde. Mais ils vont où? Mais ils savent que je suis pasteur, ils savent qu'ils vont louer l'Éternel. Amen. Qu'ils le veuillent ou pas, nous on va glorifier Dieu. Louer l'Éternel, tous ceux qui respirent. Et ces gens-là doivent se dire, mais ces gens-là, avec la neige comme ça, au lieu de rester tranquillement, regardez Masterchef. Qu'est-ce que nous, on va faire avec Masterchef, bien-aimés? Nous, on préfère Dieu chef. Voilà. C'est Dieu qui est le chef. Et quand tu es avec lui, tu es heureux. Comme le chien près de son maître. C'est ça ma prière. Être comme un chien près du maître. Daniel n'a pas changé sa façon de prier. Il a porté du fruit toujours. Et là, on nous dit clairement que si nous portons du fruit, Dieu sera glorifié. Troisièmement, bien-aimé, comment glorifier Dieu? Dans les fruits, il y a aussi la foi et la fidélité. Mais je mets ça à part. La foi, c'est important. Il est écrit dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même si dans les fruits, il y a aussi la foi, mais la foi qu'il y a dans le fruit, c'est beaucoup plus la foi de la fidélité. Moi, je vais parler de la foi que Dieu peut faire ce qu'il dit, quoi. Et il est ce qu'il dit. Donc, tous les jours, vivre cette foi-là, où on croit que Dieu pourvoira. Il y a des gens, moi je connais une sœur qui dit toujours Dieu va faire. Et j'entends d'autres chrétiens dire, amen, elle exagère, elle dit toujours Dieu va faire. Oh, moi, mais quelqu'un qui dit ce qui est bien, mais vous, ça vous embête. Oh, amen, elle dit toujours Dieu va faire. Mais vous voulez qu'elle dise quoi? Que Dieu ne va pas faire. C'est ça, bien-aimé. Dieu va faire, c'est vrai. C'est cette foi-là qu'il faut avoir comme un bébé. Dieu va faire. Il va s'en occuper. C'est la vérité. Les gens disent, mais c'est un manque de sagesse. Ce n'est pas un manque de sagesse, c'est la vérité. Maintenant, si on se trompe, alors que nous, on devait faire quelque chose, on attribue ça à Dieu, alors qu'il nous a donné les moyens, Dieu nous rappellera ça. Il nous montrera que là, il fallait qu'il nous avait donné le briquet pour allumer le feu. On n'avait pas à attendre que lui, il allume à notre place. Il nous rappellera. Mais nous devons garder la foi en Dieu chaque jour. Par rapport à notre avenir, par rapport aux missions qu'il nous confie, nous devons garder la foi. Nous devons vivre une vie de foi chaque jour. C'est ça qui a fait la différence entre les vrais de Dieu et ceux qui n'étaient pas à 100% de lui. Les vrais bergers de Dieu et les autres. C'est ça qui a fait la différence. Et on en trouve une liste dans Hébreux 11. On les appelle les témoins. Les témoins, ce sont qui ont manifesté la foi à un moment donné de leur vie, tel que Dieu l'attendait. Et Dieu nous attend à manifester cette foi en lui. Toute notre vie, il s'occupe. Problème, nous prions. Problème, nous prions. Difficulté, nous prions. Mission, nous prions parce que nous avons foi. La foi va se témoigner à travers, se manifester à travers la prière. Dieu veut être glorifié. Quand nous prions, il est glorifié parce que c'est la manifestation qu'on a foi en lui. C'est ça, bien-aimé. Il est glorifié. Et le Seigneur va être glorifié dans ces moments-là où tout le monde a une autre vision, une autre logique. Nous, on maintient cette logique que Dieu est grand. Comme Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Parce qu'il croyait que Dieu pouvait le ressusciter. Comme Moïse a tout laissé de la richesse de Pharaon pour suivre, pour fuir au désert et ensuite venir libérer son peuple rien qu'avec un bâton et la parole. Eh bien, il croyait en Dieu. C'est ce que Dieu attend aujourd'hui. Qu'on glorifie son nom à travers la foi que nous pouvons manifester. Et nous clôturons en disant que rien ne nous empêche de glorifier Dieu. Que rien ne nous empêche. Pas le besoin de la chair. Pas l'argent. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Qu'il y ait l'argent ou pas, glorifions Dieu. Il s'occupe de tout. Ayons une pleine conscience de Dieu. Une pleine conscience de Dieu. Non plus le péché. Le péché nous empêche comment? Soit il nous fait peur. On a peur de tomber dans un mois, dans deux semaines, à cause d'une tentation qui semble traîner. Et on est immobilisé. Et on ne fait plus rien. Bien-aimé, disons comme le Seigneur, le lendemain s'inquiétera de lui-même. Occupe-toi de glorifier Dieu aujourd'hui. Le péché nous bloque comment? Lorsque, après avoir péché, on décide qu'on est mauvais, imparfait, donc on n'est pas digne de servir Dieu. Et le diable est content. Il nous a bloqués. Ça veut dire quoi quand on a cette attitude? Ça veut dire que nous n'aimons pas Dieu et nous ne croyons pas en Dieu. Qui a dit dans 1 Jean 1,9, « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Si tu confesses, moi, je te pardonne. Maintenant, toi, tu as confessé. Tu as cru légèrement que tu es pardonné. 2 heures du temps après, tu ne crois plus que tu es pardonné. Tu demandes encore la confession. 2 jours après, tu continues. Il y en a même 1 mois après. Ils vont rappeler le péché qu'ils ont commis il y a 1 mois. En réalité, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils n'ont pas été parfaits comme ils l'auraient souhaité. Donc, ce n'est pas la gloire de Dieu qu'ils cherchent, c'est leur propre gloire. Alors que Dieu, lui, te dit que je t'ai pardonné, toi, tu continues à rappeler. Même il est écrit dans la parole, celui qui rappelle sans cesse le péché passé ne fait pas le bien. Dieu t'a pardonné, toi tu continues à te considérer comme un pourri qui ne mérite pas de servir Dieu. Donc tu accuses Dieu de menteur. Lorsqu'il dit, celui qui confesse le péché, je veux lui pardonner parce que je suis fidèle et juste. Voilà ce que tu es en train de dire à Dieu, tu mens, ce n'est pas la vérité. Il y en a qui pensent qu'en ayant une telle culpabilité, c'est ça qui les rend encore parfaits, quoi. C'est faux! Tu sors de la parole, bien-aimé. J'entends le diable qui dit, ah mais non, c'est trop facile quand même, tu viens de pécher, tu demandes pardon, tu crois que c'est fini. Hein? Il n'y a même pas une longueur de remords de 30 minutes. Bien-aimé, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut des remords de 30 minutes ou de 5 heures. La tristesse, elle vient toute seule. Mais que cette tristesse nous amène à la repentance et non à une culpabilisation qui démontre toujours que nous vivons dans l'orgueil et nous refusons d'avoir été sauvés par grâce. Nous avons été sauvés par grâce. Souvenons-nous, même quand on est chrétien et qu'il nous arrive de pécher, nous avons été sauvés par grâce. Le diable te dira c'est trop facile, mais c'est ça la vérité. Nous avons été sauvés par grâce, nous serons encore pardonnés par grâce, toujours. Que le péché ne nous paralyse pas. Nous confessons, nous redémarrons à fond avec le Seigneur. Il y a même un proverbe du monde qui dit, les chiens aboient, la caravane passe. Pendant que les démons aboient, oui, mais on t'avait fait tomber il y a 15 jours. Les chiens aboient, la caravane passe. Voilà. Il y a 15 jours, c'est passé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu me sauve. Aujourd'hui, Dieu m'aime. Aujourd'hui, Dieu me donne la sainteté. Et pour glorifier ce nom. Ce n'est pas pour que je me proclame bon chrétien, mais pour que son nom soit glorifié. Voilà. Quand nous allons chercher que la gloire de Dieu, nous serons vainqueurs du péché. Il est écrit dans Ésaïe 42:8, Dieu ne donne sa gloire à personne. Lorsque nous cherchons le bon comportement pour se sentir bon chrétien, on donne gloire à l'homme. Mais quand nous allons commencer à même pas chercher le bon comportement, puisque l'Esprit est en nous. Quand nous allons commencer à chercher à glorifier Dieu, tu dis, ma vie c'est pour Dieu. Je refuse de voler parce que ça ne glorifie pas Dieu. Je refuse de taper parce que ça ne glorifie pas Dieu. Je refuse de mentir parce que ça ne glorifie pas Dieu. Voilà. Moi j'appelle ça une pleine conscience de Dieu. Quand on a une pleine conscience de Dieu, on refuse de céder. On dit non, Dieu existe, il est grand, je refuse de céder. Dieu me soutiendra. Il s'occupera de moi. Oui, mais tu viens de pécher il y a 10 minutes. D'accord, mais je refuse cette vie de péché. Je refuse. J'ai péché, j'ai été faible. Je demande pardon au Seigneur, mais officiellement, je refuse cette vie-là. Ce que je veux, c'est que ma vie glorifie le Seigneur. Amen. C'est cela qu'il faut dire au Seigneur. Donc nous disons, bien-aimés, pour finir maintenant, nous disons 2 choses. Nous devons faire que nos pensées soient toujours des pensées de Dieu. Nous devons faire toujours que nos pensées soient toujours des pensées de glorifier Dieu. Toujours glorifier Dieu. Et 2e chose, nous devons laisser Dieu faire. Laissez Dieu faire. Souvenez-vous de Pierre. Que l'histoire de Pierre vous aide, nous aide. Souvenons-nous de Pierre. Jésus a dit, si les hommes ne crient, on les arrête, les pierres vont crier. Est-ce que les pierres savent crier? Non. Est-ce que les pierres parlent? Non. Est-ce que les pierres bougent? Non. Alors, ça veut dire que si les, comme Dieu ne ment pas, quand il dit que les pierres vont aller crier, ça veut dire qu'il y a autre chose qui allait les animer pour crier, c'est le Saint-Esprit. Donc, disons, après avoir gardé nos pensées en Christ, en disant toujours, Seigneur, que mon corps te glorifie, même quand il y a des mauvaises pensées sont venues, tu les chasses, tu dis, Seigneur, je veux que mon être te glorifie. Quand il y a des pensées de jalousie qui viennent, tu dis, mais Seigneur, moi je n'ai pas à être jaloux parce que j'ai tout en toi. Les pensées, toujours gardons nos pensées en Christ, bien-aimés. Et deuxième chose, on dit, Seigneur, j'accepte de laisser le Saint-Esprit m'utiliser comme il aurait voulu utiliser les pierres si les hommes ne criaient pas. Je me laisse faire par ton Esprit Saint. Je ne veux pas lui résister. Qu'il m'utilise comme il aurait utilisé des pierres. Je lui cède ma volonté. Amen. Que notre vie serve à glorifier l'Éternel. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu ne cherche pas les parfaits. Il cherche des gens qui l'aiment, qui veulent qu'il les utilise. Et je peux vous dire que quand nous vivrons pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu, nous serons parfaits réellement. Parce que Dieu nous rendra parfaits pour glorifier son nom. Mais si nous cherchons la perfection pour nous-mêmes, nous serons toujours dans la dépression et dans une vie de montée-descente. Mais lorsque nous vivons pour glorifier Dieu, Dieu nous amènera de gloire en gloire. Prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions de ce que tu nous a aidé encore aujourd'hui à glorifier ton nom en ressassant ta parole, en la prononçant, en la répétant et en disant « Saint-Esprit de Dieu, nous nous laissons faire. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur, et fais de nous des instruments d'adoration et de louange. Que nous ne soyons pas en arrière des pierres, mais que nous soyons avant les pierres. Ô Seigneur, béni soit ton nom, toi qui nous rappelles ce qui est exact. Au nom de Jésus, que notre vie te glorifie, Seigneur. Que la priorité soit toi, Seigneur. Et nous croyons qu'ainsi nous aurons vraiment une vie agréable, Seigneur. Jésus, tu es le roi, Seigneur. Et durant les jours de nos vies, Seigneur, nous voulons te lever, te glorifier tout le temps, Seigneur. C'est ce que nous faisons comme prière aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons nous en tenir là, peu importe les événements. Qu'il y ait péché ou pas, Seigneur, il est écrit 7 fois le juste tombe, 7 fois tu le relèves. Qu'il y ait obstacle national ou pas, qu'il y ait des gens autour de nous qui nous provoquent, qui nous injurient, qui rigole, qui nous calomnie, que nous puissions élever ton nom, que nous vivions pour toi. Seigneur, je me souviens de Paul qui était critiqué par des gens qui aussi prêchaient la parole. Paul ne s'est pas occupé de lui. Il a dit l'essentiel, bon, il a dit qu'il se réjouissait quand même puisque ces gens-là parlaient de toi. Il n'a pas regardé à toutes les critiques qu'il subissait de la part de ces gens, mais il a regardé au simple fait que ces gens-là proclamaient ton nom. Que Jésus soit glorifié était suffisant pour lui, Seigneur. Et nous voulons ressembler à Paul. Cherchez toujours la gloire de ton nom. Et parfois, quand nous sommes critiqués, c'est afin que toi seul sois reconnu comme Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.